en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, chère Chantal Delsol, de votre très aimable présentation. Madame le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier de l'Institut de France, Madame le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie. Depuis des temps immémoriaux, Dieu et la religion semblent ne faire qu'un, comme s'il ne pouvait y avoir de présence divine sans la médiation de la religion, de sorte qu'en contrepartie, tous les excès commis au nom de Dieu seraient imputables à la religion, c'est-à-dire au fait qu'il existe des temples, des prêtres, des rites, des croyances. Pourtant, le XXe siècle a produit de nouveaux discours théologiques qui semble pouvoir se passer de la religion au sens traditionnel du terme, ce qu'on appelle le théologico-politique, très fortement lié aux guerres, en particulier à la Première Guerre mondiale, et aux folies politiques qu'elle a engendrées. L'idée du théologico-politique est apparemment simple. La politique se substitue à la religion pour assurer le salut des hommes, même si la politique peut prendre des formes très diverses, voire opposée, de l'État totalitaire à la négation radicale de l'État, c'est-à-dire la révolution, voire la révolution permanente. Mais, au principe, nous retrouvons une même idée, une phrase de saint Paul à la fois prise au premier degré et mécomprise. « Toute puissance vient de Dieu, qu'on peut aisément transformer sous cette forme. » Dieu est l'instance qui dispense la puissance aux hommes. Voire, de façon plus radicale encore, Dieu n'est rien d'autre que la dispensation de la puissance, rien d'autre que la puissance en tant qu'elle se donne et se dispense à la cantonade. Une puissance qui, au demeurant, peut se révéler obscure, violente, sauvage, sans aucune médiation et surtout pas celle de la religion. Une puissance qui, sous prétexte de régénérer le réel, le transit parfois jusqu'à sa destruction. Walter Benjamin, dans un court texte de 1921, intitulé « Critique de la violence », parle alors de violence divine dans une perspective apocalyptique, mais sans référence à la moindre religion. L'étude de Carl Schmitt de 1922 sur la théologie politique est en quelque sorte une réponse à ce texte de Benjamin. Carl Schmitt n'a pas inventé le théologico-politique, il a au contraire posé les conditions philosophiques et juridiques nécessaires pour canaliser la sauvagerie de cette violence, conditions qu'il a résumées sous le terme stoïcien de catéchon, l'arche politique et morale qui maintient l'ordre du monde institué et retarde le jugement dernier. Mais on est en droit de se demander si ce type de violence divine, quelle que soit l'interprétation qu'on en donne, peut se réguler, ou s'il n'est pas préférable de dissocier radicalement violence et théologie. On pouvait penser que ce discours apocalyptique du Dieu comme toute puissance qui se dispense de façon plus ou moins aléatoire et sauvage allait disparaître avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la chute du fascisme et du nazisme. Or, je ne crois pas que ce soit le cas. Je suis frappé de voir combien, au contraire, cette idée de la puissance qui se donne au monde et le transit ne cesse de revenir à travers la philosophie contemporaine, mais aussi à travers les sciences sociales. Simplement, aujourd'hui, il est de moins en moins question d'État. L'idée même de révolution s'estompe. Ce n'est plus le politique qui est le médiateur de cette dispensation de la puissance, mais l'économie, sous quelque forme qu'on entende cette notion d'économie, aussi bien libidinale chez le philosophe que financière chez l'économiste. Là est la nouveauté, ce que j'oserais appeler le théologico-économique. Il est une formule qu'un fameux économiste de la première moitié du XXe siècle, Joseph Schumpeter, a proposé pour rendre raison de l'évolution du capitalisme et de son système productif. Il a parlé de destruction créatrice, au nom de cette idée sans aucun doute paradoxale que la richesse n'est pas une affaire d'accumulation et de patrimonialisation, de construction et d'édification, mais de destruction, d'obsolescence programmée, de place nette et de table rase, ce qui n'est pas sans rappeler la violence divine de Walter Benjamin. Il faudrait aussi noter que le terme de « nomos » qui définit dans le vocabulaire non pas de la Grèce antique, mais bien de la philosophie contemporaine, qui définit cette dispensation tous azimuts de la puissance par quelque instance que ce soit, et bien que ce terme est utilisé par Gilles Deleuze aussi bien que par Carl Schmitt, par Friedrich Hayek aussi bien que par Martin Heidegger. Mais quelle est la place des religions face à ces singulières déviations contemporaines de la théologie? Les religions occupent une place ambiguë. D'un côté, elles peuvent se laisser emporter par la sauvagerie, fascinées par cette puissance absolue que Dieu semble vouloir communiquer aux hommes. Mais les religions sont aussi de très vieux savoirs qui s'y connaissent en matière de théologie et qui peuvent ainsi offrir des garde-fous contre l'ensauvagement, contribuant ainsi à apprivoiser ce qui apparaît pourtant immaîtrisable. Apprivoiser l'immaîtrisable ne signifie pas le maîtriser, comme l'espéraient ceux qui, au XIXe siècle, conjuguaient positivisme, scientisme et abolition des religions, mais seulement se mettre à sa mesure, l'assumer, ne pas en être emporté. Il y a de la religion parce qu'il y a de l'immaîtrisable, et tant qu'il y aura de l'immaîtrisable dans le monde, je ne vois pas comment on pourra négliger la question religieuse. Dans l'étymologie latine du terme « religion », nous trouvons deux significations distinctes. « Religion » vient certes du latin « religare », ce qui nous lie et relie à Dieu. La religion manifeste une conjonction de l'homme et de Dieu, et cette conjonction peut se transformer en fascination de la puissance si on considère que la religion nous fait participer à la toute-puissance de Dieu. Mais religion vient plus sûrement encore de relégere, relire. Coran, par exemple, veut dire en arabe la récitation, la lecture et relecture perpétuelle du même texte. En latin, il s'agit de relire pour vérifier et contrôler. Relégere marque l'attention aux choses, le scrupule que nous éprouvons à en user, et ce terme en latin s'applique aux scrupules moraux avant même qu'aux scrupules religieux, en particulier chez Cicéron, qui emploie à maintes reprises le terme de religio en ce sens moral, sans la moindre référence théologique. Il arrive même que ce scrupule prenne, chez Cicéron, un tour esthétique et non seulement moral, dans le sens de la délicatesse et du tact, à l'exemple de ce passage de l'orateur, où Cicéron parle de la religio ateniensium pour caractériser le bon goût rhétorique et esthétique des Athéniens. Face aux théologies sans religion de notre temps, Rome nous donne à penser ce que pourrait être, à la limite, une religion sans théologie. Quoi qu'il en soit, l'étymologie « relegere » apparaît première dans la langue latine. La religion romaine s'en trouve fortement marquée, elle qui illustre moins un lien qu'une retenue, et une retenue de la puissance même d'agir des hommes, comme en témoignent la place et la nature des rites dans ce type de religion. Et je reviendrai sur cette question du rite tout à l'heure. Toute religion, ou presque, repose sur quatre piliers. Le livre, deuxièmement la prière, troisièmement le culte et les rites, et enfin, quatrièmement, le sacrifice. Ce que l'on retrouve dans le paganisme aussi bien que dans le monothéisme, en Orient comme en Occident. Ces instances fondamentales de la religion n'ont pas la même signification selon qu'on les conçoit comme lien ou au contraire comme scrupule et retenue. Selon qu'on les conçoit comme participation des hommes à la divinité ou au contraire comme ménagement de la juste distance entre Dieu et les hommes, entre le principe et le monde. Espacement nécessaire pour nous permettre d'assumer ce qui, par essence, nous dépasse, notre provenance et notre destin. Alors, je commencerai par le livre. La philosophie de la Renaissance, de Raymond de Sebonde à Tommaso Campanella, distingue deux livres. Le livre de la nature, ce que la nature par sa présence et son activité même nous donne à comprendre de l'être et de son principe, puis un autre livre qui vient en second pour suppléer les difficultés de compréhension du premier livre, le livre de la révélation, les Saintes Écritures. Campanella identifie le livre de la nature au conamen universale, selon son expression, à la puissance de l'être qui transit le monde. Nous savons, depuis Kant et Schopenhauer, que tout ce qui est de l'ordre de la puissance, de la force, est indicible, incompréhensible, d'où la nécessité du second livre. Simplement, d'un livre à l'autre, du livre de la nature aux Écritures, la nature du sacré change du tout au tout. Nous passons du sacré de puissance au sacré de personne, c'est-à-dire nous passons de la participation au conamen universale à l'amour du Père, voire à celle plus complexe de la Trinité, qui se définit d'abord et avant tout comme la relation et l'accord indéfectible des trois personnes. Ce passage de la puissance à la personne nous conduit de la religion comme religare, comme participation et fusion de l'homme au tout et à son principe, au relégueré, à la religion comme respect et distance, comme respect de la distance. Les Écritures saintes ont quelque chose d'épistolaire. Elles sont de l'ordre de l'envoi, non pas donation de la puissance au monde, mais envoi d'une lettre à un destinataire. Une lettre qui, comme la plupart des lettres, donne des nouvelles, de bonnes nouvelles même, évangile, portées par des messagers, angelos en grec, songeons à l'archange Gabriel en roulant le Coran autour du cou de Mahomet. En tant que correspondance, les Écritures impliquent deux corollaires. Elles créent nécessairement de la personne, du « je » et du « tu », un expéditeur, le « je » du « je suis celui qui suis hein, » d'Exode 3,14, et un destinataire, celui à qui la lettre est destinée et qui, en tant que tel, a précisément un destin. Mais cette relation constitutive de la personnalité divine, aussi bien qu'humaine, postule elle-même une distance spatio-temporelle sans laquelle la relation épistolaire et l'envoi n'auraient pas lieu d'être. Lorsque l'on vit constamment côte à côte, de façon fusionnelle, on ne s'écrit plus. Distance temporelle radicale entre l'éternité de Dieu et la finitude humaine, distance spatiale radicale entre celui qui est partout et nulle part, Dieu, et celui qui est ici et pas ailleurs, l'homme. Je dirais simplement, sans avoir le temps de l'expliquer, que l'Écriture sainte, en tant qu'écriture avec une minuscule, est précisément ce qui ménage et met en scène cette distance et cette différence épistolaire constitutive de la religion comme rapport respectueux et scrupuleux, mais jamais idolâtrique, de l'homme à Dieu et par la médiation de Dieu, de l'homme aux autres hommes. Je vais passer maintenant au second pilier, la prière. La meilleure façon pour l'homme de répondre à cet envoi est la prière. Saint Thomas d'Aquin affirme que la prière l'emporte sur tous les autres actes de la religion. Elle exprime en effet de façon privilégiée le rapport de l'homme à Dieu dans toute son ambiguïté entre le sacré de puissance et le sacré de personne. En effet, la prière se présente le plus souvent sous forme de demande. J'obéis à Dieu et lui voue un culte pour que celui-ci satisfasse mes désirs. La prière prend alors une forme économique, « je donne pour que tu donnes », d'eau ou d'aise, qui transforme le rapport de l'homme à Dieu en champ d'échange et d'optimisation des conditions, le bonheur des hommes contre la gloire de Dieu. Sous cette forme, Dieu semble réduit au sacré de puissance et la prière elle-même à un acte magique d'évocation et de mobilisation de la puissance divine. Or, les religions prennent en général leur distance avec cette conception dite superstitieuse et populaire de la prière. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, juge que la prière relève non du désir, mais de la raison et de l'intelligence. Kant, à son tour, avec le même esprit, considère dans son petit opuscule posthume sur la prière que la prière a la vertu de rendre, je le cite, « plus clair dans l'âme les représentations obscures et confuses, non pas de Dieu, mais de notre relation à lui, de leur donner un plus haut degré de vivacité et de conférer ainsi une plus grande efficience au mobile qui pousse à la vertu ». Je ferme les guillemets en soulignant ce dernier terme démodé. À travers la prière, Kant nous propose, si j'ose dire, et je vais utiliser à nouveau un terme stoïcien, une catalepsis du sacré qui rappelle ce que Pétrarque à son tour entend dans le Secretum par la prière sous sa plus haute forme de méditation spirituelle, de vie solitaire et d'ossium religiosum. La prière pour Pétrarque est une arme formidable pour lutter contre le relâchement spirituel et contre l'affaiblissement progressif des forces de l'esprit. Cette lutte suit, chez Pétrarque, trois étapes empruntées non pas aux évangiles, mais aux Tusculanes de Cicéron, qui servent ici de référence explicite à l'humaniste. La prière, chez Pétrarque, passe d'abord par la contentio, la concentration de l'esprit, dans son sens quasi-stoïcien de tonos, de tension de soi. Cette concentration doit contribuer, dans une deuxième étape, à notre consolidation, notre confirmatio, autrement dit, toujours dans un sens stoïcien, à la construction de notre citadelle intérieure, qui elle-même ménage et favorise la tenue d'un discours intérieur, un discours à la fois silencieux et articulé. Et je me permettrai une courte digression littéraire. Le silence, en tant qu'il est articulé, s'exprime chez Pétrarque par la murmuration, et c'est probablement sous cette forme qu'il faudrait dire sa poésie. Je reprends la question du sermo intérieur, qui est par excellence la prière et qui, à travers le rapport à Dieu, s'adresse d'abord à soi-même. Le sacré de personne auquel conduit la prière est ici moins lié à l'humanité de la personne divine qu'à la divinité de la personne humaine. Passons aux rites, porteurs eux aussi de la plus grande ambiguïté, semblant caractériser la plupart du temps les religions les plus superstitieuses, voire les plus magiques. Mais les rites peuvent prendre une toute autre signification, comme en témoigne l'une des religions les plus ritualistes dans l'histoire, la religion romaine. La notion de ritus, comme celle de religio, n'est pas à Rome originairement théologique. Le ritus des Latins, les Grecs l'appellent nomos, dans un tout autre sens que celui que j'évoquais au début de ma conférence. Le rite romain, c'est de l'institution, c'est du droit, ce qui institue juridiquement notre rapport au Dieu. La religion romaine est essentiellement, je vais être un peu provoquant, est essentiellement une question de droit constitutionnel et plus exactement de séparation et de relation des pouvoirs, et relation parce qu'il y a d'abord séparation. Cette séparation a lieu ici non pas entre le privé et le public ou entre le civil et le militaire, mais entre le profane et le sacré, entre ce que l'action des hommes peut maîtriser dans le cadre de leur organisation collective et ce qui dépasse le pouvoir de toute collectivité. La religion romaine a essentiellement pour but de créer un domaine de propriété réservé aux dieux, ce qu'on appelle la res divina, le patrimoine divin. Après le sacré de puissance, puis le sacré de personne, nous accédons avec Rome au sacré des choses. C'est par cette affectation d'un patrimoine aux dieux que les hommes rentrent en relation quasi-juridique avec ceux-ci et qu'ils réussissent à former avec eux une communauté. La res divina, c'est la res publica dans le domaine des relations entre les hommes et les dieux. Mais cette communauté est sans partage ni fusion, une simple communauté rituelle, le rite étant précisément ce qui crée du lien sans requérir de participation. Du sacré de puissance au sacré des choses, l'étau de la toute-puissance divine se desserre. Et s'acquiert sacré dans la religion romaine tout ce qui est considéré comme la propriété des dieux, et sacrilège l'atteinte à cette propriété. Le sacré n'est donc pas une force magique, mais une qualification juridique. C'est pourquoi la prêtrise est à Rome une magistrature, le rite n'étant rien d'autre ici qu'une procédure formulaire, comme dans le droit romain, dit par le magistrat-prêtre, qui assure et garantit le transfert de propriété des hommes aux dieux, autrement dit la consécration. Les biens consacrés aux dieux sont inaliénables, inviolables et imprescriptibles. La res divina de la religion romaine est à l'origine du régime juridique du domaine public de l'État. Ainsi, la religion romaine ne crée pas de lien personnel et sentimental avec la divinité, mais règle l'organisation collective et objective de la cité face à son extériorité immaîtrisable par un processus de transfert de propriété selon des règles formelles léguées par la tradition, en un mot, des rites. Et il n'y a de relation avec les dieux ici que dans le cadre de ces règles. Dans toute religion, en tant soit peu rituelle, se retrouve nécessairement, ne serait-ce qu'en partie, l'esprit du droit romain. Je terminerai cette brève et sommaire description des religions par ce qui constitue l'acmé du culte, de la cérémonie et des rites, c'est-à-dire le sacrifice qui nous permettra de mieux comprendre la question de la propriété divine ou de la part de Dieu, et du lien que cette affectation des biens crée entre l'homme et le ou les dieux. À cette fin, il faut revenir à ce qui est à l'origine des trois grandes religions monothéistes, le sacrifice d'Abraham. Tout le monde connaît l'histoire qui repose sur deux gestes fondamentaux, des gestes simples, mais aussi originaires et fondateurs de civilisation, la retenue d'une part, et la substitution de l'autre. La retenue, l'ange envoyé par Dieu, retient le bras d'Abraham, prêt à sacrifier son fils Isaac. Cette retenue permet dans un second temps à Abraham de substituer le bélier à son fils. Il existe évidemment nombre d'interprétations de cet acte fondateur des trois grandes religions monothéistes. Je vais proposer la mienne qui s'inscrit dans la lignée de ce que je viens de dire à propos de la religion romaine, car il me semble que ce sacrifice a lui aussi rapport à la res divina, au sacré des choses plus qu'au sacré de la puissance ou de la personne. Sacré de puissance, voire sacré de personne, qui aurait certainement ici exigé le sacrifice d'Isaac. La retenue exprime à mon sens l'auto-limitation par Dieu lui-même de sa toute-puissance. Par cette auto-limitation, Dieu crée un espace ouvert à la liberté de l'homme, mais surtout à son intégrité, à sa protection, qui autorise un commerce apaisé entre l'homme et Dieu, un commerce non superstitieux, affranchi de toute domination divine et de toute crainte humaine. Cette ouverture et cette détente de la toute-puissante, rendre possible à son tour la substitution de l'animal à l'enfant. La substitution exprime le fait que c'est l'homme qui, en définitive, décide, comme à Rome, ce qui est propriété humaine et ce qui est propriété divine. Que Dieu, pour reprendre la position même de saint Thomas, n'a pas nécessairement le dominium exclusif sur le monde, que tout ne lui appartient pas, mais qu'il revient à l'homme par certaines opérations de la raison, ce que saint Thomas appelle une super additio rationis, et cette substitution en est assurément une, qu'il lui revient donc de se ménager la propriété seconde du monde. Tout repose sur un chiasme. Isaac, qui comme tout être humain est sous la puissance de Dieu, a été finalement rendu à son père pour le plus grand bien de l'institution familiale, tandis que le bélier, initialement sous la puissance des hommes, comme tous les autres animaux selon la Bible, a été donné à Dieu. La substitution est un échange qui illustre la coexistence du dominium premier de Dieu et du dominium second des hommes, du dominium premier de Dieu comme auto-limitation, du dominium second de l'homme comme arche et protection. L'échange, la substitution n'est pas ici économique, selon le droit commutatif, mais politique, selon le droit distributif, qui attribue à chacun ce qui lui revient, non par nature, certes, mais précisément au nom du droit, au nom de la loi, au nom de l'alliance. En effet, par cette attribution, sont clairement distinguées l'une de l'autre, la part de Dieu et la part des hommes, c'est-à-dire est clairement séparée la potestas juridique et pratique des hommes de la potentia métaphysique de Dieu, séparation fondamentale qui conditionne toute autre séparation des pouvoirs. Je conclurai par deux brèves remarques. Première remarque. La religion ainsi définie comme scrupule et retenue et non comme participation est de l'ordre de la sanctuarisation plus encore que de la sacralisation ou de la sanctification. La sanctuarisation, c'est-à-dire la délimitation de lieux et la dilatation de moments qui ménagent aux hommes et aux choses un abri que j'appelle l'arche. La sanctuarisation préserve le sacré de sa face d'ombre, de la terreur qu'il est toujours susceptible de porter avec lui. Elle est la condition de la pacification de nos relations avec l'extériorité, aussi bien qu'avec les autres hommes. Sous cette forme, la religion œuvre pour la paix. Deuxième remarque, il apparaît enfin que cette religion, considérée ainsi que je l'ai faite ici, comme critique du théologico-politique, n'est pas une nouvelle religion naturelle, minimaliste et quasi-profane, moins encore un simple sentiment religieux résiduel qui accompagnerait ce que certains appellent la sortie de la religion, mais bien nos vieilles religions, toutes vêtues de leur panoplie complexe et sophistiquée, faites de dogmes et de rites, parfois surprenants, il est vrai, qu'il faut simplement relire sous la forme du relégueré et non pas du religaré. Merci de votre attention.